François suis preneur pour le premier Dominique Philippe, le 29 mai 2002 à Saint-Gilles.
Après avoir vu la distinction de la personne homme et femme, du moins avoir saisi certains aspects, vous comprenez qu'on pourrait développer ça énormément. Dès qu'on est dans le pos, il faut bien dire, c'est l'extension. Il n'y a pas beaucoup d'intelligibilité. L'intelligibilité, elle nous est donnée par les principes. Et voir jusqu'où va cette distinction. Il faut voir maintenant le sommet de la personne humaine. Alors, qui est aussi bien masculin que féminin, puisque nous avons la même âme. Et au fond, le sommet de la personne humaine, c'est le développement du nous. Ce n'est pas le sportif, celui qui est premier dans le Tour de France. Celui qui, au point de vue football, l'importe sur les autres. Vous comprenez, ça, c'est très bien pour le développement du corps. Le sommet de notre personne humaine vient de notre âme. C'est-à-dire du point de vue de l'intelligence et de la volonté. C'est l'intelligence et la volonté qui se développent de la manière la plus parfaite, la plus profonde, et qui va le plus loin possible. L'homme est esprit. Donc, il a une finalité qui est spirituelle. Et c'est ça qui est important. Et tout doit se regarder en fonction de cela. Le développement de l'intelligence et le développement de la volonté. Les autres développements, très bien. On est d'accord que c'est très beau. C'est très beau, c'est très intéressant, surtout le développement de l'art. Mais c'est du côté du développement de l'intelligence et de la volonté que la personne humaine peut atteindre la sagesse. Donc, c'est la personne du sage. Je suis au point de vue philosophique. Hein. Au point de vue surnaturel, il y aura la personne du saint. Le sage salue le saint. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là. Il y a un petit livre du père Festugère sur la sainteté et la sagesse qui est très intéressant. Je ne dis pas, on peut discuter sur certains points, mais bon, qui est très intéressant comme chose. Parce que c'est évident que ce que l'on voit au point de vue philosophique, c'est la sagesse métaphysique impliquant la sagesse prudentielle, mais la sagesse prudentielle est dépassée. Et c'est la sagesse contemplative, dans la mesure où le philosophe peut atteindre le point de vue de la contemplation. Autrement dit, l'homme le plus parfait au point de vue humain, la femme la plus parfaite au point de vue humain, ce n'est pas la mère, ce n'est pas l'artiste ou l'homme qui gouverne, c'est celui qui contemple. L'exemple, si vous voulez, d'un Platon, l'exemple d'un Aristote. Il n'y en a pas beaucoup. Vous le trouvez comme ça, comme ceux qui dominent, mais il y en a beaucoup plus qu'on nomme, heureusement. Parce que, ordinairement, le sage ne se manifeste pas sur la place publique. Le sage se contente, c'est-à-dire est heureux avec son lien avec le Créateur, avec Dieu. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ici, nous voyons celui qui est et qui fréquente Dieu. Et la sagesse humaine, dans son développement ultime, nous permet d'être l'ami de Dieu. Celui qui fréquente Dieu. Celui qui ne cesse de se poser la question, tout cela très bien, qu'est-ce que Dieu pense de tout cela? Qu'est-ce que Dieu désire de tout cela? Nous, en tant que chrétiens, nous avons la révélation dans le Christ. Et c'est énorme. C'est quelque chose de magnifique. Le sage, le vrai sage, auquel on peut annoncer qu'il y a le Christ, fils bien-aimé du Père, qui est venu nous visiter et nous parler, comprend alors que la solitude du sage, qui est normale, va avoir cet immense avantage de pouvoir avoir la communion avec Jésus, fils bien-aimé du Père. Alors, ça c'est la sainteté. Tandis que, au point de vue philosophique, c'est la sagesse. Vous voyez tout de suite la très grosse différence. La sainteté, c'est le développement le plus absolu de l'amour vis-à-vis de Dieu et de l'amour vis-à-vis du prochain. Donc la sainteté se développe dans cette charité. Et la charité se développe pleinement à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. La sainteté, qui est beaucoup plus étendue que la sagesse philosophique, la sainteté, nous avons l'exemple de la petite Thérèse. Ça implique une très grande sagesse pratique, une sagesse spéculative et contemplative. C'est très différent. C'est rare qu'elle soit très, très développée. Elle a été très développée dans saint Thomas. Où il y a vraiment une sainteté qui s'unit à la sagesse, mais c'est très rare. Ordinairement, la sainteté est faite vraiment de ce développement de la charité, qui fait un type d'homme très particulier. Ici, nous laissons ça de côté, on le signale, c'est important, puisque nous vivons en chrétienté, donc c'est très important de voir la personne humaine, ce développement explicite, très particulier dans la sainteté. Tandis que le sommet de la personne humaine, au point de vue purement humain, c'est la sagesse. La sagesse philosophique. La sagesse philosophique, son sommet, c'est la contemplation de Dieu, autant qu'on peut la voir sur terre. Cette contemplation, contemplation de Dieu qui développe notre nous dans ce qu'il a de plus profond. Et ce développement de notre nous dans ce qu'il a de plus profond implique l'amour. Grâce à l'amour à l'égard de Dieu, à l'égard de celui qui est notre Créateur et notre Père, puisqu'on peut parler de la paternité de Dieu, même au point de vue purement philosophique, parce que Dieu est le Créateur de notre âme, et qu'il est le Créateur de notre âme dans un sens de la plus grande des miséricordes, le plus grand amour, un amour de pure bonté, de désintéressement absolu. Dieu me crée par pure bonté, par pur amour. Et non pas du tout pour recevoir de moi honneur, gloire, adoration. Il m'a créé par pur amour, complètement désintéressé, dans un acte gratuit. L'acte gratuit dont parle Sartre n'existe que dans l'acte créateur. L'acte créateur est vraiment un acte gratuit. C'est-à-dire qu'il n'attend rien en retour. Il donne. Et si nous répondons, il est très heureux. Il est dans la joie. Mais il n'agit pas pour cela. Mais ce n'est pas un désintéressement, hein, faisons grande attention. Ce n'est pas du tout un désintéressement, dire « je donne, puis tout, qu'ils fassent ce qu'ils veulent ». Dieu attend de nous un retour et le désire, parce qu'il veut notre bonheur. Or, il sait que notre bonheur ne peut être que dans ce retour vers lui. Voyez, c'est assez subtil, mais c'est très important d'avoir la distinction. Et ça, on peut très bien faire la distinction, on le sait très bien. Dans l'amitié, nous avons des expériences analogues à ça. On aime son ami pour lui. Et c'est pas du tout pour lui. Et on est très heureux de recevoir de lui un retour d'amour. On attend même cela. Parce que on ne peut l'aimer pleinement dans un acte d'amour très pur que si justement il s'ouvre dans un amour pour Dieu. Autrement dit, si nous affirmons que dans l'ordre humain, on ne peut contempler Dieu qu'en l'aimant. Notre intelligence ne peut se développer pleinement que dans un milieu affectif d'amour, d'amour spirituel. Si cet amour spirituel n'est pas là, notre intelligence est trop faible. S'il y a cet amour spirituel, notre intelligence peut s'affermir et aller toujours plus loin. C'est-à-dire ne jamais considérer qu'on peut dire « c'est assez ». C'est assez dans ma contemplation, c'est assez dans ma recherche de la vérité. Je connais suffisamment. Non. Plus on avance, plus on voit que l'amour est nécessaire à avancer. C'est grâce à l'amour que mon intelligence peut arriver à contempler Dieu. Même si cette contemplation, au point de vue contenu, est très subtile. l'amour vient fortifier cela. De sorte que la contemplation, l'acte de contemplation, c'est un acte qui unit l'intelligence et l'amour. On ne peut pas les séparer. Ceux qui veulent la pure subjectivité, la pure objectivité, sans aucune subjectivité, eh bien cela ne contemple jamais. C'est très significatif. Le rationalisme a voulu exalter la raison, la pure raison, soi-disant objective. Et ça demeure, pas dire que le positivisme est passé. Non, le positivisme est très ancré dans la culture moderne, dans notre culture. Et on veut toujours une objectivité pure. Ceux qui veulent l'objectivité la plus pure tombent dans une subjectivité beaucoup plus grande que ceux qui acceptent la subjectivité. Il est bien évident que quand j'aime quelqu'un, je le regarde autrement qu'un étranger. Alors on dira, ah, c'est plus l'objectivité, on n'est plus objectif. On est objectif vis-à-vis de ses amis. Je suis beaucoup plus objectif pour un ami que pour quelqu'un que je ne connais pas. Vous voyez ? C'est pas commode d'accepter ça. Ça, il faut arriver à un degré contemplatif. Si on n'a aucune expérience de la contemplation, on dira toujours une pure subjectivité. Est-ce que, je prendrai un problème, est-ce que vous connaissez mieux l'homme grâce à un ami que si vous n'aviez pas cette amitié ? Vous êtes l'un à titre d'expérience. Vous savez que la connaissance que vous avez de votre ami vous permet de connaître plus profondément l'homme que si vous n'aviez pas cette amitié. Alors, si vous reconnaissez ça, et là, on en a l'expérience. On en a l'expérience. S'il y a un amour d'amitié, s'il y a un amour d'amitié, on a ce point de vue-là que je ne connais vraiment l'homme que dans mon ami. Et mon ami me permet d'avoir une connaissance de l'homme beaucoup plus parfaite. Oui. C'est dans ce sens-là que le chrétien devrait avoir une connaissance de l'homme bien plus parfaite que tous les autres à cause de l'amour d'amitié. Et l'amour d'amitié à cause de la charité. La charité est un amour d'amitié qui permet ça. Alors, ce qui est vrai pour l'homme est encore beaucoup plus vrai pour Dieu. Parce que Dieu me dépasse. Alors la connaissance purement objective de Dieu, elle est très analogique. Je dis que Dieu est. Je sais que Dieu est bon, que Dieu est simple, que Dieu m'échappe complètement. Je ne connais pas ce qu'est Dieu, sa quidité. J'affirme qu'il existe. J'affirme qu'il est infiniment bon. J'affirme qu'il est infini. Et dès que j'affirme qu'il est infini, j'affirme qu'il me dépasse complètement. Et grâce à l'amour, je l'atteins d'une façon plus profonde. Et supprimer, quand on parle de Dieu, la connaissance affective, c'est s'empêcher d'avoir une vraie connaissance de Dieu. Ça, il faut avoir compris ça. Autrement, on tombe dans un rationalisme qui est contraire à saint Thomas. Je voulais déjà dire ce que dit saint Thomas, que les réalités qui sont supérieures à l'homme, il faut les aimer pour les connaître parfaitement. Et que l'amour va plus loin que la connaissance. affirmer ça, c'est accepter que le jugement va plus loin que l'appréhension. Ce qui est très important. Si vous n'acceptez pas que votre jugement va plus loin que votre appréhension, vous n'entrez jamais en métaphysique. Le jugement touche l'existence. L'appréhension cherche la quinité des choses. Et donc, je vais plus loin dans la connaissance de l'être par le jugement que par l'appréhension. Et le thomisme, à certains moments, a eu le danger d'être beaucoup trop tourné vers l'appréhension. Alors, on a parlé d'un concept de Dieu. Or, il n'y a pas de concept de Dieu. Il y a l'affirmation « Dieu existe ». Ce qui montre bien que votre jugement va plus loin que votre appréhension. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Comprendre ça pour purifier notre manière de regarder les choses. Et grâce au jugement, l'amour peut exister sans connaître quantitativement la réalité, sans la connaître parfaitement, en l'ignorant. Ce qui fait comprendre comment, en théologie, l'ignorance, la sainte ignorance, va plus loin et adhère plus à Dieu lui-même que celui qui reste uniquement dans une connaissance quantitative. Il y a toujours, on sait bien, il y a un danger d'intellectualiser le mystère de Dieu. Et ceci a existé, et ceci existe encore maintenant. Alors, c'est contraire à saint Thomas. De dire ça, c'est contraire à saint Thomas. Et c'est contraire à saint Thomas dans les choses les plus profondes, les choses ultimes. C'est contraire à la vision propre du sage. Saint Thomas reconnaît que notre métaphysique est une sagesse. Et donc, elle est une connaissance affective et aimante de Dieu. Et on ne doit pas dire à ce moment-là, « Ah, tout ça c'est de la spiritualité, c'est subjectif. » Non, c'est cela qui sauvegarde l'objectivité. Autrement, vous mettez une objectivité uniquement à l'égard de la quidité. Et l'objectivité à l'égard de la quidité, c'est une objectivité de toute la connaissance univoque. La connaissance contemplative n'est pas une connaissance univoque. Elle atteint Dieu tel qu'il est. Mais évidemment, en acceptant d'avoir une connaissance très faible au point de vue quantitatif. Il y a un dépassement de l'amour. Et ça rejoint ce que saint Thomas dit lorsqu'il s'agit des réalités qui sont supérieures à moi, Dieu. L'amour va plus loin que la connaissance, que la connaissance quantitative, que la connaissance générique, que la connaissance rationnelle. Il y a une connaissance affective de sagesse. L'amour vient au secours de mon intelligence et permet à mon intelligence d'atteindre la réalité suprême, de l'atteindre dans l'admiration, sans la posséder, mais en la contemplant. La contemplation est une connaissance non possessive. C'est une connaissance extatique. Donc c'est une connaissance qui m'oblige de reconnaître ma pauvreté. Le contemplatif, au point de vue philosophique, est un pauvre. Il sait que la réalité la plus importante pour lui, la réalité qui donne un sens à toute sa vie, il l'atteint pauvrement, dans la pauvreté, sans du tout avoir un droit à la connaître. Et il la connaît en attente. Et c'est ça qui est merveilleux, en attente. Le philosophe connaît Dieu en attente. C'est-à-dire avec un désir profond de le connaître toujours plus. Sachant très bien que la pauvre connaissance qu'il a de lui actuellement est très peu de chose. Grâce à l'amour, il peut connaître Dieu tel qu'il est. Mais dans la pauvreté, sans vouloir le posséder, mais en l'adorant. Et l'adoration, c'est justement le fait de reconnaître que l'amour est plus que la connaissance quantitative que j'ai. Et je reconnais que c'est en l'adorant que je suis le plus proche de lui. Et en l'adorant, j'ai une connaissance quantitative qui accepte ce texte. C'est pour ça que la contemplation de Dieu au point de vue philosophique est toute en désir, toute en appel. Un jour, alors le philosophe ne peut pas dire autre chose, un jour, peut-être, je verrai Dieu plus parfaitement. Et le philosophe reste dans ce peut-être. Je ne sais pas. Et je ne peux pas savoir. Le saint sait qu'il verra Dieu tel qu'il est. Parce que c'est révélé. Mais le philosophe, il dit peut-être. Il dit peut-être parce que il peut, ou lui-même, parce qu'il est croyant, ou il a des amis croyants qu'il respecte. Alors, il peut dire, en tant que philosophe, le chrétien dit qu'il verra Dieu tel qu'il est. En tant que philosophe, je ne peux pas dire que cela est sûr pour moi. Je peux simplement dire que cela peut être. Et c'est déjà beaucoup. Pour le philosophe, côtoyer le chrétien, ou parce que le chrétien est lui-même, ou parce que le chrétien est son ami, permet au philosophe de rester dans ce désir, désirer voir Dieu, désirer le connaître. Il sait très bien qu'il n'a aucun droit naturel à cela. Il peut seulement aspirer à le voir. Donc, cette personnalité du philosophe, du métaphysicien, du contemplatif, elle est dans un désir toujours plus grand. Et donc, elle implique nécessairement une recherche toujours plus grande. Le philosophe ne peut jamais dire « j'y suis, je suis arrivé ». Non, il peut dire « je cherche à le connaître toujours plus, à l'aimer toujours plus ». Et j'essaie de tout regarder dans la lumière de l'être premier, du Dieu créateur. Et je regarde tout dans cette lumière-là. C'est ça la lumière de sagesse. De regarder l'homme lui-même dans sa référence avec Dieu. Son âme est créée par Dieu. Et parce que son âme est créée par Dieu, il adore Dieu. Le philosophe peut parler de l'adoration et même il doit en parler. L'adoration à l'égard de Dieu est naturelle. Elle est fondamentale. Et elle est ce sur quoi je peux fonder toute ma vie. Cette contemplation de Dieu implique donc radicalement cette pauvreté, la pauvreté de celui qui adore. Et la pauvreté de celui qui adore, c'est de reconnaître que tout ce qu'il a vient de Dieu. Tout ce qu'il a de positif vient de Dieu. La seule chose qu'il possède sans Dieu, c'est les fautes, les péchés. C'est une petite rapine intellectuelle et affective. Ça, c'est pas Dieu. C'est en n'obéissant pas à Dieu. C'est dans la désobéissance. Tandis que le vrai philosophe, être dans une vérité profonde. Et la vérité profonde, c'est justement de reconnaître que je suis une créature de Dieu. Vous voyez, la contemplation de Dieu implique immédiatement, affectivement, l'adoration. Et montre que l'adoration me maintient dans la vérité pratique. La vérité pratique, c'est adorer Dieu. Celui qui n'adore jamais Dieu n'est pas dans la vérité. Il construit sur le sable, c'est-à-dire sur lui, sur ses capacités. Tandis que le contemplatif, le sage, il construit sur quelque chose d'extrêmement solide, l'acte créateur de mon âme, l'acte créateur de l'âme humaine. On est dans la dépendance totale à l'égard de Dieu. Et on reconnaît cette dépendance. Et on l'aime. Cette dépendance me permet d'être vrai. Une vérité à la fois spéculative et pratique. Elle est spéculative parce qu'elle suppose d'avoir atteint Dieu, de l'avoir atteint comme l'être suprême. Et pratique parce que je dépends de l'acte créateur. C'est très important de voir que la personne du contemplatif, du sage, implique en même temps une humilité radicale à l'égard de Dieu. Et je peux alors, à ce moment-là, m'apercevoir que la terrible tentation, c'est l'orgueil. C'est-à-dire d'oublier que c'est en aimant Dieu, en aimant le Créateur, d'un amour très spécial, puisque je dépends totalement de en aimant Dieu que je reconnais ma petitesse et ma pauvreté. Et reconnaissant ma pauvreté et mon humilité, la personne du contemplatif, du sage, implique cette soumission radicale à l'égard du bon plaisir de Dieu. Dans la mesure où il le connaît, il se soumet entièrement. C'est ça, je dirais, le point de vue de la sagesse philosophique. Et nous sommes tous invités par la grâce de Dieu à atteindre cela. C'est évidemment ce qui manque le plus à l'humanité d'aujourd'hui. Alors, si vous êtes pratico-pratique, vous dites, ça ne sert à rien. Et c'est évident, la sagesse contemplative, philosophique, ne sert à rien. Et en même temps, elle est la plus nécessaire qui soit. Puisque la finalité de l'homme est dans cette contemplation, est dans cette adoration, est dans cette reconnaissance de Dieu. Reconnaissance que le Dieu que j'atteins est souverainement sage et qu'il m'a créé dans un acte de sagesse et qu'il me donne cette sagesse, qu'il me donne cette intelligence. Vous voyez, c'est, je crois, très important pour nous, ça, d'avoir cette conviction profonde que l'homme n'est pleinement lui-même que dans cette contemplation. Cette adoration. Puisque c'est là seulement que l'intelligence et l'amour sont unis pour contempler. Et je reconnais par le fait même à la fois la grandeur de mon intelligence, parce que mon intelligence n'est parfaitement elle-même que quand elle contemple Dieu. Tant qu'elle ne contemple pas Dieu, elle se contemple. Et donc, elle se retourne sur elle-même. Et c'est le grand péché d'orgueil de l'humanité, ça. De se retourner, faire que l'intelligence qui est faite pour contempler Dieu contemple l'homme et se replie sur elle-même par le fait. Disant Dieu, on ne le connaît pas. Il n'existe pas. Il n'a pas d'intérêt pour moi. C'est à ce moment-là, l'humanité, l'homme, qui lui-même se condamne à ne pas atteindre sa fin. Donc, c'est l'homme qui lui-même se condamne à ne pas être pleinement lui, ce que Dieu veut qu'il soit. C'est l'homme qui, parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop exigeant, se replie sur lui-même. C'est justement ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que ce repliement de l'homme sur lui-même, depuis le positivisme, c'est ça qui empêche l'homme de respirer comme homme, c'est-à-dire de vivre ce qu'il doit être, ce que l'homme doit être. C'est quelqu'un qui contemple Dieu autant qu'il le peut et qui l'adore. La conséquence pratique, immédiate de la contemplation, c'est l'adoration. L'adoration prépare la contemplation. Et l'adoration est l'effet de la contemplation. L'effet de la contemplation, c'est l'adoration. Et l'adoration la plus parfaite. Et c'est là où l'homme atteint sa vraie fin. Tant qu'il n'atteint pas cela, il n'atteint pas sa vraie fin. Donc, il ne comprend pas ce que c'est que la finalité. Parce que la finalité ne se comprend pas spéculativement. Elle se comprend en la vivant. C'est pour ça que si facilement, on la considère comme quelque chose d'accidentel, parce qu'elle est liée à la vie. Elle ne peut pas s'abstraire. C'est un acte de sagesse qui est à la fois intellectuel et amoureux. S'il n'y a pas une connaissance pratique, affective, de la contemplation de Dieu, très vite, on nie. L'homme est ainsi fait que tout ce qu'il n'a pas atteint, il le nie. Et il s'excuse. En le niant, il s'excuse. Plutôt que de reconnaître, oui, je n'ai pas eu le courage de rechercher ça, parce que c'était trop pénible, c'était trop difficile. Alors on le nie. C'est, je crois, très important de voir ça. C'est que la négation a cette puissance de pouvoir exalter l'homme sur lui-même. Et la négation la plus forte, c'est de nier l'existence de Dieu, de nier cette finalité de l'homme.